Bonjour Dominique Quesada, merci de me recevoir. Nous parlons de L'Inséparé, Essai sur un monde sans autre, votre nouvel ouvrage qui est paru dans la collection Perspectives critiques au PUF. Le concept d'autre est-il devenu nuisible? Est-ce que l'on peut évoquer l'autre en termes de nuisance conceptuelle?
On est un petit peu forcé de le penser. Je ne sais pas si c'est vraiment une nuisance, mais en tout cas, c'est un objet culturel qui nous semble spontanément un donné, comme une donnée anthropologique, comme s'il était absolument consubstantiel au fait d'être un être humain, par exemple. Et on a l'impression que sans autre, on ne serait pas un être humain ou que cette dimension est tout à fait nécessaire pour que on puisse fonctionner, penser, vivre, aimer, avoir des relations, etc. Ce qui m'est apparu dans l'avancée de ce travail, c'est qu'effectivement, je suis plutôt parti, un peu comme tout le monde, avec cette constatation que, voilà, que le concept d'autre, l'altérité, etc., avait des petits moments de faiblesse, en tout cas des vacillations, des vacillements. J'ai essayé d'analyser ça en parlant d'altéricide, donc de comprendre les modalités de disparition, de volatilisation de ce concept. Et puis plus j'avançais dans cette réflexion, plus j'avançais donc sur la compréhension de ce qu'est ce concept d'autre. Et puis, progressivement, il m'est apparu comme effectivement quelque chose qui n'était évidemment pas du tout anthropologique. Plus j'avançais en fait dans ce travail, plus je me suis rendu compte, enfin en tout cas ça m'est apparu que évidemment ce concept était un concept, c'est-à-dire pas du tout un donné, enfin une espèce de chose consubstantielle à ce qu'est un être humain, mais une construction culturelle. Et une construction culturelle dont le rôle commence à m'apparaître, et ça sera beaucoup plus net dans le volume 2 de ce livre qui sera sous-titré Essai sur l'homme sans autre, comme effectivement un concept qui est une des modalités de limitation. C'est une figure surmoïque en fait. L'autre, c'est une figure surmoïque, c'est un totem, c'est une figure surplombante et qui vise à maintenir le sujet, enfin, et qui participe à la définition de ce que c'est qu'un sujet. Ça participe à cette définition dans nos cadres culturels depuis la philosophie grecque. Et donc ça apparaît progressivement, effectivement, comme une figure. Je ne sais pas si elle est nuisible pour reprendre votre terme, mais en tout cas, elle participe à quelque chose qui limite le sujet dans ses capacités. Donc c'est une figure de pouvoir, c'est une figure qui limite le sujet à travers un cadre qu'elle lui donne et pour naître et pour se développer. Voilà, donc ce qui m'est apparu, c'est ça. C'est en tout cas la donnée limitative. Alors certains diront que la limitation est une nécessité. En tout cas, dans ce cadre culturel-là, ça apparaît comme une figure surmoïque.
Et qui limite, effectivement, je vais vous citer deux fois, vous écrivez, le recours au concept d'autre représente en grande partie une longue fuite de nature masochiste hors du monde. Vous parlez également d'effets pathogènes. J'aimerais qu'on reste un petit peu sur cette question de voilà, une figure de pouvoir qui limite le sujet. Vous mettez le doigt avec ce concept d'autre sur quelque chose qui pourrait restreindre nos capacités à agir, à faire de l'action dans le monde, au-delà même de la simple représentation.
Bien, si vous voulez, c'est ce qui est à comprendre dans cette histoire d'autre, d'altérité, etc., c'est que si on le prend comme une construction culturelle, c'est-à-dire comme un pur artefact, comme un pur donné relatif au développement d'un certain mode de civilisation, on se rend compte que l'autre est une sorte de, comment on pourrait dire, une sorte de clé de voûte ou de poutre maîtresse ou enfin, de quelque chose sur lequel toute une charpente culturelle est bâtie et repose. Et évidemment, l'autre, alors que j'ai essayé de définir sur le mode le plus général qui soit, indépendamment des contenus que peut prendre cette notion, comme tout ce dont nous sommes séparés, il est bien évident que l'autre est relié, en tout cas permet le fonctionnement d'un système qui est celui de la métaphysique. Et celui de la métaphysique, ça consiste à penser le monde, enfin, pour le dire très très grossièrement, évidemment, il faudrait beaucoup de temps pour développer tout ça, mais dans le cadre où nous sommes là aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que c'est lié évidemment au dispositif de la métaphysique, c'est-à-dire un dispositif qui consiste à penser la vérité sur le mode de quelque chose qui est placé en un lieu séparé. Alors ça peut prendre des figures comme des figures divines, ça peut prendre la forme des idées chez Platon qui sont des idées placées dans le ciel des idées, etc. Et puis de faire du monde réel, du monde concret, un monde qui est par définition, par nature dévalorisé, c'est-à-dire que cette pensée générale qui est organisée par ce concept d'autre, qui consiste à penser le rapport au monde sur un mode toujours de séparation, au profit d'un monde qui serait vrai mais séparé et inaccessible, on voit bien comment ça fonctionne effectivement comme une donnée relative au pouvoir, c'est-à-dire que quand vous mettez les humains dans une nécessité de conquérir quelque chose qui est en même temps inatteignable, vous les maintenez dans un, enfin exactement comme peut le faire la publicité, avec d'autres armes et dans un autre champ référentiel, mais exactement sur le même mode, c'est-à-dire dans une insatisfaction permanente. Là, on pourrait parler d'une insatisfaction ontologique, hein, d'une insatisfaction de nature essentielle. Et donc, oui, dans ce sens-là, c'est une figure de pouvoir, c'est une figure de maintien des êtres humains dans l'obligation qu'ils ont d'atteindre un objet inatteignable, mais en même temps dont on ne peut faire autrement que d'avoir à l'atteindre. Donc, un peu comme des animaux qui sont dans des petites cages, vous savez, qui tournent en rond dans des cages, comme ça, comme des hamsters. Voilà ce que nous fait la métaphysique, ça nous transforme en hamsters.
Ce qui m'a intéressé dans votre presque historisation de ce concept de l'autre, puisque vous l'historisez un petit peu, vous expliquez pourquoi il est apparu, il y a notamment cette idée que l'autre, le concept de l'autre, a eu pour effet de consacrer, enfin, ou plutôt a eu lieu pour consacrer une position narcissique de l'homme, la fonction de l'autre, assurer la protection des positions narcissiques occupées par l'homme dans le monde. Vous écrivez même « une forme destinée d'abord à l'installation de cette position narcissique de l'homme dans le monde ». Je complète, vous écrivez à nouveau, « c'est longtemps pensé dans le monde l'idée d'une place à part, séparée d'un réel lui-même constitué d'entités séparables et séparées face à tout le reste de l'étant. Or, la sortie de l'autre correspond à ce moment historique, pour nous, le moment actuel, d'un décentrement des positions narcissiques de l'homme. »
Oui, alors évidemment, tout ça n'est pas, enfin, une partie de tout ça n'est évidemment pas nouveau. Je veux dire qu'on a quand même eu une certaine idée assez claire du décentrement de l'être humain, bon, avec Freud, avec la mécanique quantique, avec, enfin, un certain nombre de données, enfin, le géocentrisme, enfin, tout ça, évidemment, ne simplement, j'ai essayé de le mettre en perspective pour comprendre comment aujourd'hui cette figure de l'autre a cessé de fonctionner. Bon, a cessé de fonctionner, ça veut dire que son utilité, ce à quoi elle servait, ce à quoi son but culturel n'a plus lieu d'être. Et donc ce monde dans lequel on vit aujourd'hui nous met dans un système d'inséparation. C'est-à-dire qu'on s'est longtemps représenté l'homme comme à part du réel, mais si on a pu faire cette représentation narcissique, c'est que le réel lui-même était conçu comme un ensemble d'entités elles-mêmes séparées les unes des autres. Et on pourrait dire que dans cette perspective-là, qui est la perspective classique de la pensée européenne, de la pensée depuis la pensée grecque, c'est tout d'un coup se rendre compte que l'homme est le plus séparé de tous ces éléments séparés. C'est-à-dire, c'est pourquoi est-ce qu'il est séparé, le plus séparé de ces éléments séparés? C'est simplement parce que il est celui qui regarde l'ensemble du réel, et donc c'est le principe de l'homme comme une espèce de culmination, soit de la création divine, soit de l'évolution. Enfin, on peut prendre ça par plein de branches différentes, mais en tout cas, ça nous amène toujours à penser l'espèce humaine comme une sorte de point ultime qui, par le regard critique, la raison, etc., par le regard qu'elle pose sur le reste des objets du réel, se pense elle-même forcément séparée, puisqu'elle est forcément sur le mode d'un face-à-face, et d'un face-à-face qui valorise la position de l'être humain. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de figure narcissique, en tout cas de l'autre comme garant, comme maintien de la position narcissique de l'espèce. Alors ça pondère légèrement cette idée que l'autre serait une figure de pouvoir, puisque elle aurait pour vocation de maintenir du pouvoir sur l'être humain, mais en même temps, cet être humain qui est sujet d'un pouvoir, il est lui-même pensé comme maître et possesseur de la nature, comme disait Descartes, et donc comme celui qui est en face de tout le reste. Voilà pourquoi il me semble que la réflexion sur l'autre nous amène à penser la position culturelle de l'être humain comme une position de valorisation narcissique, et donc ce temps de l'inséparation comme le temps d'une remise à niveau des choses, c'est-à-dire de considérer l'être humain et sa capacité de raisonner, de connaître, de transformer le réel comme un des éléments plus ou moins ordinaires du réel parmi d'autres.
Oui, parce qu'il y a cette question maintenant, c'est pourquoi est-ce seulement aujourd'hui que peut se construire une pensée sans l'autre ? Pourquoi l'inséparé n'a-t-il pas été pensé jusqu'ici ? Parce que dans votre livre, L'inséparé, Dominique Quesada, c'est une entreprise qui cherche à nous désaccoutumer du concept de l'autre. C'est toute votre difficulté intellectuelle, conceptuelle, de construire une logique contre-intuitive pour nous, qui sommes trop habitués aux conceptions de l'autre. Donc, votre entreprise de construire une logique sans autre, et votre difficulté de lutter contre l'ancrage de nos intuitions, parce que ça est devenu intuitif pour nous, issu de notre accoutumance à la pensée de l'autre. Donc, ma question, pourquoi l'inséparé n'a-t-il pas été pensé jusqu'ici?
Alors, pour répondre à cette question, il faut essayer de voir comment un cadre culturel se naît, devient puissant et se prend un peu les pieds dans le tapis dans sa propre puissance. Et je crois que l'inséparé ne peut pas être pensé avant, ne peut pas exister, même pas tellement pensé, c'est ne peut pas exister avant dans le cadre de la pensée occidentale, parce que ce dispositif culturel qu'invente Platon, quand il invente les essences, Platon, il invente donc le fait que le réel serait composé d'une essence des choses, que les choses auraient une essence, que les éléments de la réalité auraient un domaine de définition, une essence. Et ces essences sont séparées les unes des autres, par définition, puisqu'elles ont une définition qui les sépare les unes des autres. Donc il crée un monde à partir de là, qui est un agrégat dont les liens sont problématiques les uns avec les autres, hein, et Platon se débat avec beaucoup de difficultés théoriques avec cette question. Mais en tout cas, il nous propose un univers mental dans lequel la pensée occidentale a grandi et est devenue extrêmement puissante, a développé des capacités de transformation du réel absolument prodigieuses et jusqu'à présent inégalées. Mais voilà, je crois que ce dispositif a trouvé c'est une espèce de forme générale de puissance, et puis ensuite progressivement à rencontrer des contradictions, tout comme Platon en a rencontré dans la théorie et dans l'écriture, mais dans la réalité simplement. Et que tout d'un coup, des éléments de technologie comme l'Internet ou des éléments comme de simplement d'évidence comme l'interrelation des phénomènes économiques ou la communication sans rupture avec les téléphones portables, enfin l'ensemble de ces données, la donnée écologique évidemment qui est peut-être la plus massive de toutes ces données, qui fait que chacun aujourd'hui, rentrant dans une voiture qu'il possède ou qu'il a louée, ben sait que voilà, il a une action sur l'ensemble de l'écosystème, donc un système d'interrelation généralisée. Ben voilà, tout ça nous a fait finalement sortir de ce cadre platonicien. Et là où beaucoup de philosophes se sont écharpés à penser la sortie de la métaphysique, on est là poussé à l'extérieur de ce cadre et pouvant dès lors le regarder comme un cadre culturel et non pas comme si c'était la réalité. Par ailleurs, il faut quand même voir que cette idée d'une inséparation, ou en tout cas de l'absence de l'essence, enfin de l'idée d'essence, du concept d'essence, par exemple, existe dans la pensée chinoise, par exemple, qui n'a absolument pas besoin de l'essence pour définir le monde, et que on peut trouver des éléments d'inséparation dans un autre système référentiel là aussi, mais dans la pensée bouddhiste, par exemple, où on a des données comme celle-ci. Ce qui est intéressant pour nous, en tout cas, c'est que cette donnée d'inséparation ne pouvait pas nous apparaître tant que nous étions dans la croissance dynamique c'est-à-dire dans l'histoire de la pensée occidentale, dans son développement à partir de l'impulsion gigantesque qu'a pu lui donner Platon.
Donc là, nous avons évoqué le déclencheur. Vous avez parlé des usages techniques, notamment du numérique, du cas du téléphone portable. Prenons juste cet exemple-là, parce que vous l'évoquez dans votre livre, Dominique Quesada. Prenons celui du téléphone portable. Vous en faites un objet, enfin vous en faites, vous dites que ça peut être un objet de l'inséparé, objet même de l'inséparé, le téléphone portable. Pouvez-vous juste nous dire les raisons?
Et les raisons, je ne sais pas trop, mais en tout cas, on voit bien que dans notre quotidien, on est aujourd'hui accroché à cet objet qui est notre système d'interface avec l'ensemble de nos données de communication, de notre rapport au monde finalement. Donc voilà, on est dans la consultation permanente de cet objet qui nous permet de recevoir des emails, d'envoyer des SMS, mais aussi d'être localisé, de laisser des traces numériques. Enfin, on voit bien comment tout un système de reconfiguration des systèmes de pouvoir. Par exemple, il y a ce livre très intéressant de Thomas Berns qui s'appelle « Gouverner sans gouverner », qui montre comment l'ensemble de ces données de gestion à partir de ce qu'il appelle la gouvernementabilité algorithmique, si je me souviens bien, montre que l'on gouverne, que gouverner aujourd'hui n'est plus gouverner le réel, mais gouverner à partir du réel. Et gouverner à partir du réel, c'est très très différent. Tout d'un coup, on n'a plus cette position, qui est une position de civilisation, d'un être supérieur qui organiserait le réel selon ses besoins et son bon vouloir, ses desiderata, mais au contraire, on gouverne à partir du réel, c'est-à-dire on gouverne à partir des données, de la traçabilité, par exemple, de ce qu'on laisse sur Internet et qui donne une connaissance infiniment plus aiguisée que toutes celles qu'on a pu développer jusqu'à présent sur nos comportements, sur nos attitudes, sur nos besoins, sur nos désirs, sur l'analyse des données, le traitement numérique et algorithmique des données. Et là, évidemment, une des figures de pouvoir contemporaines qui est dans le téléphone portable pourrait être un peu la porte d'entrée, si on veut bien le voir comme ça. C'est l'objet qui matérialise le plus cette inséparation, au sens où on ne saurait aujourd'hui vivre simplement sans émettre un ensemble de traces numériques qui permettent non seulement une vision très précise de qui nous sommes individuellement, mais qui nous sommes en tant que groupe, en tant que société, en tant qu'espèce, enfin, un ensemble de traitements des données à partir de enfin, on voit bien comment, par exemple, la masse de données que traite Google quotidiennement est capable de fournir une vision extrêmement affinée de l'espèce en train de fonctionner et de le faire en temps réel. Donc voilà pourquoi il me semble que, enfin, entre autres, hein, le téléphone portable est peut-être la manifestation la plus évidente, parce qu'elle est près de nous, dans notre poche, et qu'on s'en sert tous les jours, enfin la plupart d'entre nous, de ce nouveau paradigme de l'inséparation.
Parce qu'il y a image, son, textes qui sont en capacité d'être numérisés, c'est-à-dire de passer par le même traitement. Et là, vous développez des termes qui pourraient être des concepts. Vous parlez d'hétérogène, vous parlez d'hybridation, hétérogène, hybridation, qui sont envisageables justement par par ce concept d'un séparé.
C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a effectivement trouver une technologie, une technique qui permette de traiter à égalité, sans aucune différence, effectivement, l'écriture, l'image, le son, voilà, et l'image animée notamment. Donc on a un objet, enfin une capacité de conversion, finalement, de tout en tout. Et c'est là où tout d'un coup les essences qui protégeaient la définition des choses comme des sortes de murs, de bastions, de systèmes de protection, hein, d'enveloppes protectrices, ces essences platoniciennes qui protégeaient les choses volent en éclats, et donc les choses sont mises tout d'un coup dans une espèce de capacité incroyablement nouvelle de se mélanger, de s'hybrider, de se... Et alors c'est intéressant de voir que ce qui se crée aujourd'hui ne se crée plus à partir de l'invention de... Enfin, c'est très très rare, de l'invention d'un nouveau champ, par exemple, mais se pratique essentiellement sur le mode du mélange d'éléments préexistants, le mash-up par exemple, le mélange de vidéos, enfin, l'ensemble des ce que le travail des DJ par exemple, ce qui fait partie des mouvements musicaux les plus intéressants aujourd'hui, c'est un effet direct de cette inséparation. On est donc dans une aptitude nouvelle et très singulière et sûrement très effrayante pour beaucoup de gens, de voir que tout peut se mélanger avec tout, c'est-à-dire qu'en gros, on a mis un terme à l'idée d'une hiérarchie ontologique, d'une hiérarchie qui ferait que certaines choses vaudraient plus que d'autres, que certaines choses auraient une place privilégiée par rapport à d'autres, et donc on est dans un système qui apparaît sans doute fou à beaucoup d'entre nous qui avons l'habitude d'avoir ces systèmes de protection, ou en tout cas de penser qu'il y aurait un système de valeurs. On voit un monde où tout peut s'hybrider avec tout, c'est-à-dire tout perd son essentialité. Hein, il y a une espèce de créolisation, de météquisation, je ne sais pas si on peut le dire, mais je crois que je l'ai écrit, météquisation généralisée, qui, dans une perspective réactionnaire ou une perspective de l'ancien monde, doit être très, très violente, très, très désagréable, alors que c'est simplement... c'est un nouveau monde qu'il faut arriver à accepter. De toute façon, il est là et il faut donc essayer plutôt d'en trouver les modes de fonctionnement et comment se situer par rapport à lui plutôt que de résister. Enfin, quoi qu'il en soit, on voit bien que la perspective qui consiste à lutter contre ce mouvement essentiellement sur le mode de fabrication de murs, c'est-à-dire qu'en gros de recréer les de recréer ces sortes de barrières de protection autour des choses qui étaient les essences, la définition des essences, est vouée à l'échec. Enfin, l'ensemble des murs qui sont érigés un peu partout sur la planète, c'est une tentative bien violente, et sûrement à la mesure de la violence qui est ressentie par ceux qui les érigent. Mais en tout cas, ces murs-là sont des murs qui ne tiendront pas longtemps. Enfin, il y a une sorte de devenir l'inimaginaux de tous ces murs, c'est-à-dire qu'ils seront simplement contournés. En tout cas, ils ne feront pas revenir ce monde d'avant, celui de la définition séparée des choses.
Nous en venons à la construction d'une nouvelle ontologie. Vous avez employé le terme plusieurs fois dans votre réponse, Dominique Quesada. Effectivement, il y a à construire une ontologie de l'inséparation qui s'opposerait alors à ce que vous aviez utilisé ce terme qui m'a beaucoup plu, oniontologie. Une oniontologie, c'est comme l'oignon, ça s'épluche, mais il y a toujours une couche systématiquement, on ne l'épluche jamais jusqu'à la fin. Et là, l'objectif, et vous allez jusqu'au bout de votre concept d'inséparé, vous l'écrivez clairement, il faut construire une ontologie de l'inséparation. Alors comment ça pourrait se traduire, une ontologie de l'inséparation? C'est qu'il faut en finir avec un certain nombre de concepts qui étaient aussi déduits du concept de « autre », par exemple celui d'intériorité. Vous parlez longuement de l'intériorité, de cette inatteignable intériorité, de cette intériorité impossible. Vous dites que l'intériorité est également un fantasme romantique. Vous allez même plus loin, vous dites que ça revient à une fiction utilitaire. Vous employez plusieurs fois le terme de fiction utilitaire à propos de l'intériorité. Alors, pour parler de votre ontologie de l'inséparation que vous cherchez à construire, parlons tout d'abord des effets de l'inséparé, des effets de l'inséparation sur l'intériorité, c'est-à-dire notre intériorité et ce concept, du coup, qui est à abolir.
Dire qu'il serait à abolir voudrait dire qu'il y aurait une vision critique sur lui. Je crois que ce n'est pas tellement qu'il faut l'abolir, c'est qu'il s'auto-abolit. Enfin, d'une certaine manière, quand on réfléchit à ce qu'est l'intériorité. Alors l'intériorité, c'est comme si on avait inventé une histoire qui fait que la vérité est à l'intérieur des choses. Et que donc, connaître, comprendre, ça consiste toujours à aller plus profond, plus au fond des choses. Enfin, il y a plein de formes dans le langage comme ça pour dire ce rapport de la connaissance avec la profondeur. Et la profondeur, de quoi elle vient? Elle vient toujours de ce même dispositif, c'est-à-dire du fait que... À partir du moment où on pense le réel en termes d'essence, en termes de définition à partir de l'essence, on va penser la connaissance sur le mode du creusement. Et donc, même les sciences les plus contemporaines, même les techniques d'imagerie médicale les plus sophistiquées, etc., ne font rien d'autre que ça, d'aller essayer de trouver à l'intérieur un lieu où résiderait la vérité. Mais donc, j'ai employé ce terme d'oniontologie, puisqu'on voit bien que dès qu'on entre à l'intérieur, on reproduit de l'extériorité, puisque ce qui était dedans devient dehors, et donc on a une sorte de paradoxe qui fait qu'on ne peut jamais atteindre l'intérieur, puisque dès qu'il est atteint, il se dissout en tant qu'intérieur. Donc l'intériorité est une donnée dont à la fois on semble avoir besoin, parce qu'on on est culturellement configuré pour ça. Pensez le rapport de l'intelligence avec la profondeur, hein, de l'intelligence avec le fait de mettre de la lumière sur les choses, tout ce qui est à l'intérieur, enfoui dans le sombre, etc., serait donc à disperser au profit d'une pensée éclairante et qui aurait enfin conquis le lieu de la vérité. Mais ce lieu de la vérité, il est lui aussi inatteignable, c'est-à-dire qu'on pourrait creuser à l'infini dans les choses sans jamais trouver de lieu, puisque ce lieu, par définition, il nous échappe. Dès qu'on pense l'atteindre, il se reconstitue l'idée d'un autre intérieur où la vérité serait encore plus vraie, encore plus importante, encore plus désirable, encore plus à trouver. Donc voilà, c'est cette espèce de dispositif-là qui consiste à penser la profondeur comme le lieu de la vérité, et le creusement comme mode d'action pour y arriver, qui me semble une histoire. C'est-à-dire une histoire, c'est-à-dire une fiction, c'est-à-dire quelque chose qui n'est, c'est pas une, dire que c'est une histoire n'est pas pour dévaloriser ce dispositif, c'est simplement de voir que on est fait de mythologie, on est fait de construction culturelle, on est fait de systèmes, de dispositifs, de cadres mentaux qui font que on pense d'une certaine manière et on pense en direction d'une certaine manière. On pense en direction d'une certaine matière aussi. Voilà, donc c'est ce que j'ai essayé de développer en parlant que la seule façon que l'on pouvait d'avoir de se situer par rapport à cette disparition de l'intériorité qui nous est donnée par l'inséparation, c'était de penser l'idée d'un plan d'inséparation, c'est-à-dire d'un lieu où tous les phénomènes se passeraient, c'est-à-dire en fait une sorte de disparition radicale de la métaphysique, non pas par des arguments philosophiques complexes, mais par simplement une modification de notre rapport à la réalité et de nous comme lieu ordinaire de la réalité. Voilà, penser ne serait à partir de là, ou découvrir ne serait plus aller à l'intérieur des choses, mais accéder à une lecture du mode relationnel entre les choses. Voilà. Je pense que si on arrive à penser globalement ce qui peut se passer dans une ontologie de l'inséparation, ça serait ça. Ça serait de renoncer à ce qui nous apparaît aujourd'hui comme un fantasme romantique, ou en tout cas une des conséquences importantes du cadre platonicien dans lequel la pensée occidentale s'est déployée. C'est-à-dire que pour comprendre et pour connaître, il faudrait aller à l'intérieur des choses, puisque c'est dans cet intérieur que la vérité serait censée résider. La vérité ne réside pas dans un intérieur, puisque cet intérieur n'existe pas.
Merci beaucoup, Dominique Quesada.
Merci à vous.